Donc, nous avons notre thème de ce soir. C'est l'amour du père envers un fils perdu ou envers l'enfant qui est perdu. Donc, on dit communément le fils prodigue. Ce passage, nous l'avons lu plusieurs fois sur tous les angles. Les fois dernières, nous avons plus mis le projecteur sur celui qui est parti, sur l'enfant prodigue. Et une autre fois, on a vu son frère, celui qui est resté avec le père. Donc, cette fois-ci, on va plus mettre le projecteur sur le père. Comment l'histoire se passe du côté du père. Vous savez, quand le père laisse partir son fils pour des aventures, c'était vraiment avec un cœur serré. Mais ce qui est étonnant, il le laisse quand même partir. Et vous savez, imaginez que vous êtes encore en vie et que l'enfant vient demander l'héritage. Viens te dire ce que tu as dans le testament. Je veux voir ça et tu me donnes ma part. Tu me donnes ma part, moi je vais aller faire ma vie. Et là, je pense qu'avec la réaction qu'on peut avoir en tant que parent, on va demander, est-ce que tu veux me tuer? Est-ce que tu veux que je meure maintenant? Ou bien tu es en train de planifier m'éliminer pour avoir mes biens? Parce que l'héritage se partage que quand le parent n'est plus là. Mais là, le fils demande à son père, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Et le père, dans son amour, il va donner la part de ce fils. Mais quand il est parti dans un pays lointain. Et nous voyons cela dans le texte, dans Luc 15, versets 11 à 24. Il est parti, il a mené sa vie, il voulait vraiment explorer des choses dans sa vie, donc arrivé à un moment, il a tout dilapidé, ce qu'il avait manqué. Je pense que tout un chacun de nous peut se retrouver dans cette histoire. Et même si on a marché avec le Seigneur depuis très longtemps, il y a des moments où on est un peu comme le fils prodigue, pour ne pas dire beaucoup. Où on était avec le Seigneur, on a vécu avec lui, on a vu sa puissance, et à un moment donné, on dit, ah, est-ce que je peux faire un peu comme les autres qui sont dehors, qui ne te connaissent pas? J'ai l'impression qu'ils sont plus heureux que moi qui suis ton fils ou ta fille. Donc, finalement, on va lorgner ce que les autres font. Ils ont l'air plus libres, plus heureux, et on va chercher à les imiter. Alors, pour certains d'entre nous, nous avons abandonné, par exemple, un certain mode de vie, que ce soit les nightclubs, que ce soit des soirées avec des amis où ça échange, ça boit, ainsi de suite. Nous avons éliminé ce genre de vie, mais arrivé à un moment, on commence à regretter un peu. Et on commence à envier ceux qui sont dans le monde. Et si on ne fait pas attention, on s'écarte du Seigneur. Mais pourquoi le Père laisse partir ce jeune homme? Pourquoi il le laisse partir? Pourquoi ne lui dis pas, écoute, c'est vraiment dangereux pour toi. De toute façon, mon héritage est là et tu ne manques de rien. Reste avec moi. Tu ne peux pas partir. Tu dois absolument rester. Si tu veux pas, je ne te donne rien. Le père n'a pas fait cela. Le père n'a pas forcé son fils à rester avec lui. Et on voit l'attitude, on voit comment Dieu nous considère dans la relation avec lui. Dieu ne va pas nous forcer à rester avec lui. Donc on a toujours cette liberté, on a toujours ce choix. Parce que dans l'amour, on ne peut pas forcer l'autre à rester avec soi. L'amour se donne librement. On est libre de choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Et aussi, on laisse la liberté à l'autre d'opérer ce choix. Donc, l'amour, c'est un échange qui se fait, mais librement. Donc, ce père va, pour montrer son amour à l'égard de son fils, il va le laisser partir en aventure. Mais c'est avec un cœur lourd. Donc, si nous voyons comment le fils est parti, certainement que le père était là en train d'attendre son retour. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? J'espère qu'il va se rappeler que je l'aime et il va revenir. Et ce passage dans Luc, c'est intéressant parce que ça vient après, d'autres paraboles que le Seigneur a eu à relater à son audience. Et ces paraboles aussi montrent combien Dieu aime ceux qui sont perdus. Donc, c'était juste la suite des autres paraboles. Donc, la personne qui a perdu sa pièce, qui cherche, et quand elle retrouve la pièce de valeur, finalement, elle va dire à ses voisins, voici la pièce. Je l'ai perdu et je l'ai retrouvé. Notre parabole, c'est le berger qui a perdu sa brebis et qui va laisser les autres, les 99, pour aller à la recherche de cette brebis. Et quand il la retrouve, il va organiser une fête pour dire, je l'ai perdu et maintenant, je l'ai retrouvé. Et ensuite, le Seigneur va maintenant raconter la parabole du fils prodigue. Donc, on voit déjà ce que le Seigneur est en train de nous dire, que quand nous sommes perdus, nous sommes perdus, loin, éloignés de Dieu, Dieu s'attend toujours à ce qu'on revienne vers lui. Pourquoi il s'attend à cela? C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que c'est un Père compatissant. Il s'attend à ce que nous puissions toujours, toujours aller vers lui. Je pense qu'il y a un passage dans Psaume 103. Psaume 103, versets 13 à 14, qui dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, Dieu nous connaît dans nos moments de faiblesse. Il sait exactement quels sont nos points faibles? Quels sont nos points forts? Parce que c'est lui qui nous a formés. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions voir le jour. C'est lui qui nous maintient en vie. Même quand on lui dit, écoute, bien que ce soit toi qui m'as permis de voir ce monde, je sais plus que toi. Tu n'as rien à me dire. Et beaucoup d'entre nous avons cette attitude envers Dieu. Nous pensons tout connaître. Nous pensons connaître même mieux que Dieu. Et nous lui disons à tout moment non. Mais Dieu, patiemment, il veut que nous puissions retourner vers lui parce que il nous aime. C'est notre Père. Vous savez, le fils prodigue, quand il est parti, il menait la belle vie. Il s'est dit, voilà la vie que je manquais. J'étais en souffrance chez mon père. Donc, il a, puisqu'il avait l'argent, il avait de quoi se nourrir. Il ne pensait pas à ce que, aux efforts que le père fournissait pour son bien. Mais le verset 17 nous dit, quand il a manqué de nourriture, il cherchait même à manger la nourriture des cochons. Et vous savez, c'est une culture, la culture juive, ils ne peuvent pas se mélanger avec le cochon. C'est pas possible. Ça, c'est aussi bas qu'un juif peut tomber, c'est de s'occuper des cochons. Et ce n'est pas possible. Mais, c'est-à-dire que le réflexe devrait même l'empêcher de s'approcher des cochons. Mais il n'avait pas le choix. Et même quand il voulait même manger la nourriture de cochon, imaginez la nourriture de cochon. Il n'en trouvait pas. Le verset 17 dit, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc, il s'est mis à réfléchir. Parce que il est dans le moment le plus bas de sa vie. Et là, il n'avait plus le choix. Il était dos au mur. Il y a des moments où on s'éloigne de Dieu. On se dit, ah, je vais explorer telle partie de ma vie. Il y a telle chose que j'ai pas eu à faire. Il y a telle aventure que je n'ai pas eu à faire. Et même, certains d'entre nous on s'est retrouvés dans la débauche et à un moment donné, on s'est dit, waouh, combien d'hommes il me faut pour me sentir heureuse. Combien de femmes il me faut pour me sentir beau et charmant? Combien de bouteilles d'alcool je dois avaler pour me sentir bien dans ma peau? Combien de têtes de drogue, de quantité de drogue je dois prendre pour me sentir bien. Et là, tu fais le tour, mais le lendemain, tu te retrouves encore plus bas que la veille. Et tu te mets à réfléchir. Et là, tu te dis, et si la parole de Dieu disait vrai? Et si Dieu m'aime, qu'est-ce que je dois faire? Oui, il y a beaucoup, beaucoup qui peuvent repartir, se repentir et dire, Père, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui peut faire cela. Ce que le fils prodigue a eu à faire, c'est pas tout le monde. Il y a certains qui s'entêtent à cause de l'orgueil. Et ils s'éloignent définitivement de Dieu. Ils s'éloignent de leur Père. Mais Dieu a compassion de ses enfants. Dieu s'attend à ce qu'on revienne vers lui. Ce jeune homme a pu, il a déjà préparé sa repentance pour dire, j'ai péché contre toi, Père. Pardonne-moi. Traite-moi comme ton esclave. En fait, quand on parle comme, on parle des serviteurs, ce sont des esclaves, la maison de son père. Donc, traite-moi comme cela. Mais qu'est-ce que le père fait? C'est là où on voit l'amour du père. Il a couru vers son fils. Et vous savez aussi, ça c'est contre-culture. On s'attend à ce que ça soit le fils qui court vers le père, mais c'est le père qui court vers le fils. Et là, il commence à l'embrasser. Il doit être certainement sale. Mais le père, ce n'est pas son problème. Les excuses que le fils a préparées, il a pu quand même dire cela à son père. Mais quand on voit l'attitude du père, le fils parle du pardon, mais le père est tellement content. Il était là en train de dire, « Hey, il faut aller chercher ceci, il faut aller chercher les habits. » Chercher l'anneau. Aller tuer l'animal qu'on a préparé. Et ça, cet animal, le veau qui a été engraissé, c'est pour des occasions très rares. C'est des animaux de valeur. Et ça ne se, on ne tue pas ces animaux de cette manière. C'est pour des occasions très rares. Comme les mariages. Ok? Donc, on prépare ces animaux. Ils sont nourris d'une autre manière. Et quand on tue, c'est tout le monde qui est au courant qu'il y a un grand événement qui est en train de se produire. Et c'est cet animal que le père va sacrifier pour son fils, le veau qu'on a engraissé. On voyait un peu la valeur que le père accorde à ce retrouvail. Et le père est tellement dans la joie parce qu'il aime son fils. Il a perdu ce fils. On voit l'attitude de Dieu. Quand nous nous éloignons de Dieu, même si c'est pour un jour, deux jours, une semaine, Dieu a tellement mal. Il a un cœur lourd parce que nous nous éloignons de lui. Dieu s'attend à ce que nous puissions venir nous agenouiller et dire, Père, j'ai péché contre toi. Accepte-moi dans ta présence à nouveau. Et ce qui est encore étonnant, quelqu'un qui a dilapidé tes biens, ton argent, tout ce que tu lui as remis comme bien, tu lui remets encore l'anneau. Tu lui fais confiance avec la bague de la famille. C'est cette bague-là, c'est, ça sert de signature. Et c'est chaque famille, surtout les familles nobles, ont cette bague. Donc, quand ils plongent dans l'encre, ça sert de signature. Ils peuvent emprunter de l'argent avec, ils peuvent acheter des propriétés avec, parce que ça sert de signature. Et quand la famille est noble, crédible, ça passe partout. Avec cette alliance, il peut rentrer dans un magasin et prendre tout ce qu'il veut. Et ça va être, cette dette va revenir à la famille. Donc, vous imaginez combien le père a fait fi de tout ce que le fils a eu à faire dans le passé. Et il lui fait confiance. Pourquoi il lui fait confiance? C'est parce qu'il l'aime. Et le père va dire encore que son fils était mort. Attends, il est parti ou il était mort? S'éloigner de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source de la vie. On s'éloigne, on n'a plus la vie. Quand bien même on est là en train de se réjouir, de danser, de penser qu'on est, c'est en ce moment qu'on vit, en fait, c'est là qu'on est mort. C'est quand on se rapproche de Dieu qu'on reçoit la vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que le voleur est venu pour tuer, pour voler, pour dérober, voler, pour dérober, pour égorger et pour détruire. Pardon. Donc, et il ajoute qu'il est venu, donc lui, le Seigneur Jésus, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, c'est cette vie en abondance qu'on reçoit quand on est dans la présence de Dieu. Mais dès qu'on s'écarte de Dieu, on bascule vers la mort. Donc, tous ceux qui sont éloignés, qui s'éloignent de Dieu, ou ceux qui n'ont jamais connu Dieu, eux, ils sont morts. Quand bien même ils vivent physiquement, ils sont perdus. Et le Père va également après ceux-là. Le Père va à la recherche de ceux-là. Et même ceux qui étaient avec lui et qui se sont éloignés, le Père les attend impatiemment pour qu'ils reviennent vers lui. Donc, il y aura des circonstances, il y aura des situations, quand tu t'éloignes de Dieu, qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire repartir vers le Père, pour que tu puisses prendre conscience et te rattacher à lui à nouveau. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est cet amour qui a motivé le Père à envoyer son Fils pour nous sauver. Parce qu'il a vu que nous étions incapables. Nous étions incapables de nous racheter. Donc Dieu, dans cet amour, dépêche son Fils qui est venu vivre parmi nous et nous l'avons sacrifié. Mais le Seigneur dit que personne ne l'a tué. Il a donné librement sa vie pour nous racheter, pour que nous puissions être en vie. Donc l'amour du Père, personne ne peut comprendre cela. Parce que le Père nous aime à un niveau où nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre. L'amour du Père n'a pas de limite. Et la parole de Dieu dit, ça dépasse les profondeurs, les hauteurs, les largeurs. Cet amour ne peut pas se mesurer. Romains 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous rappelle quand nous nous sentons indignes d'être enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit, nous rassure, il nous dit exactement que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le Fils, nous sommes des fils et des filles de Dieu, bien-aimés. Le terme Abba, c'est vraiment un terme très affectif. Que ce soit en arabe ou en araméen, c'est un terme très affectif. C'est daddy. OK? L'équivalent de daddy. Alors, ce terme, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu est notre Père. Et les Juifs n'étaient pas habitués à cela. Si bien quand Jésus est venu sur la scène et il a commencé à appeler Dieu son Père, ils ont commencé à le lapider. Ils ont cherché plutôt à le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une relation très étroite avec Dieu. C'est-à-dire l'un est dans l'autre. On a le patrimoine de Dieu en nous. Et par Jésus, nous avons ce privilège d'être adoptés dans la famille de Dieu. Et nous pouvons aussi l'appeler non seulement Père, mais Abba. Donc quand tu considères cette manière, cette relation avec Dieu, même si tu n'as pas eu un Père terrestre, même si tu n'as pas vu comment un Père peut aimer son fils ou sa fille d'une manière incroyable, sache que Dieu est un Père parfait. Dieu t'attend toujours pour que tu ailles vers lui, même quand tu es tombé plus bas qu'on peut penser. Dieu veut que tu repartes et que tu lui dises, j'ai péché contre toi. Accepte-moi dans ta présence. Et Dieu voit ton cœur, voit la repentance. Il t'accueille parce que il s'attend à ce que tu reviennes vers lui. Donc quand tu tombes et que tu crains Dieu, sache que cela ne vient pas de lui. Cette crainte-là ne doit même pas demeurer dans ta relation avec Dieu. Cette honte de repartir, comment Dieu va te considérer, ça, ça ne vient pas de lui. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc, quand il y a la crainte, quand tu aimes quelqu'un et que tu te mets à trembler dans la présence de cette personne, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il y a quelque chose d'autre. Peut-être c'est une possession. Il n'y a pas d'amour. Je continue. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour que tu puisses vraiment profiter de tes moments intimes avec Dieu, de la présence de Dieu dans ta vie, il faut bannir cette crainte de qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Surtout que j'ai fait telle chose. Est-ce qu'il va encore m'accepter? Imagine si le fils prodigue se posait cette question et il restait dans son coin. Il allait mourir. Et loin de son père. Parce que le père a dit qu'il est mort. Il allait mourir. Mais il a pris son courage. Il a dit, non. Cette situation que je vis, c'est pire qu'être même esclave chez mon père. Je préfère être esclave chez mon père que de vivre cette situation. Donc, il est revenu vers son père pour lui demander pardon. Alors, quand tu vois l'attitude de ce père envers son fils qui court à sa rencontre, qui l'embrasse, qui demande, qui veut tout faire pour lui, tu sens tout de suite combien Dieu nous aime. Tu sens tout de suite. Et dans Romains 8, j'ai pas le passage exact, mais dans Romains 8, Paul disait, qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour de Dieu? Est-ce que ce sont des tribulations? Est-ce que ce sont les forces démoniaques? La faim? Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Donc, ne nous éloignons pas de Dieu, mais plutôt, recherchons l'intimité avec lui. Parce que Dieu veut donner des bonnes choses à ses enfants. Dieu veut faire du bien à ses enfants. Matthieu 7, versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, à comparer aux hommes qui sont aussi méchants, il y a beaucoup d'hommes qui traitent bien leurs enfants. Il y a plus forte raison. Comment le Père ne nous donnera pas ce que on le lui demande? N'aie pas honte. Il faut bannir cette honte. Quand tu tombes, quand tu t'es loin de Dieu, repars vers lui. Ne t'éloigne pas de lui. Parce que c'est la source de ta vie. Ne laisse pas l'orgueil t'envahir et dire « Je ne peux pas ». Ne laisse pas la honte t'écarter de Dieu parce que tu dis « Je suis trop sale, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne peux plus. Dieu ne pourra pas m'accepter. » Non, Ça, ce sont des appréhensions. Dieu ne raisonne pas de cette manière. Dieu voit ta vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. Donc, si il allait jusqu'à mourir pour nous, il n'y a pas un péché qui sera trop dur pour lui pour qu'il ne puisse pas te pardonner parce que tu t'es écarté de lui. Donc, reviens à la raison. Demande sincèrement pardon et que Dieu puisse te restaurer, te laver et t'accepter dans sa présence. Que tu puisses avoir toute la confiance de Dieu au moment où tu te repens. Tu reçois la clé du royaume. Tu reçois ton héritage pour l'éternité. Il te donne sa bague. Il te donne sa bague. Il te donne accès à sa puissance, à sa richesse. Il est prêt à le faire. Donc, quand tu as cela en tête, dès que tu tombes, tu te relèves, tu dis, Satan, tu peux pas m'avoir. Je repars vers mon père. Tu ne laisses même pas le temps s'écouler. Tu dis, non, Satan, tu m'as eu sous cet angle, mais là, je peux pas rester avec toi. Je repars vers mon père. Parce que je sais qu'il m'attend. Je sais qu'il est prêt à m'embrasser, à me prendre dans ses bras. Donc, sois sûr que Dieu t'accepte dans sa présence. Et pour finir, le verset de 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui, c'est normal. Si les gens nous trouvent bizarres, si les gens trouvent que nous faisons trop, c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté cet amour de Dieu. Donc, ils vont dire, ah, toi, tu pries trop, toi, tu fais trop. Ah, non, mais il faut un peu laisser Dieu tranquille. Pourquoi tu fais tout le temps des choses comme ça? Relax. S'ils te disent tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas connu cet amour. Le monde ne le connaît pas. Mais toi, tu as expérimenté cet amour de Dieu. Reste accroché à l'amour de Dieu. Reste accroché à lui et il ne va pas te décevoir. Ne laisse pas l'orgueil te barrer la route. Va vers ton Père. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.